sur l'importance de la dimension subjective. Pourquoi on peut supposer que ceux qui pensent avoir un job à la con ont généralement raison? Nous voilà donc en possession d'une définition qui me paraît valide, en tout cas pour les besoins de cet ouvrage. Cependant, et cela n'aura pas échappé à l'auditeur attentif, il subsiste un flou. Cette définition est essentiellement subjective. Je définis le job à la con comme un emploi que son titulaire juge inutile, superflu, voire néfaste. Mais je sous-entends aussi qu'il a raison de le voir ainsi. Je fais l'hypothèse que cela correspond à une certaine réalité sous-jacente. Après tout, c'est ce qu'on est obligé de supposer. Sinon, il faudrait accepter qu'un même boulot puisse être considéré comme un job à la con un jour, et pas le lendemain, suivant les humeurs d'un salarié un peu trop versatile. Voici où je veux en venir. Puisqu'il existe bien une valeur sociale distincte de la pure valeur de marché, mais qu'on n'a pas encore trouvé de moyen satisfaisant de la mesurer, la perspective du travailleur reste ce qui se rapproche le plus d'une évaluation correcte de la situation. Dans la plupart des cas, cela paraît assez évident. Si un ou une employé de bureau passe 80% de son temps à poster des mèmes de chats sur Internet, peu importe que ses voisins d'Open Space s'en rendent compte ou non, lui ou elle ne se fait aucune illusion sur la nature de ses activités. Même lorsqu'il peut y avoir débat sur la contribution exacte d'un travailleur à l'entreprise, il est raisonnable de penser que celui-ci est le mieux placé pour la connaître. J'ai conscience qu'un tel point de vue est loin de faire l'unanimité. Les cadres et autres gros bonnets ont tendance à expliquer que si la majorité des employés de grandes entreprises ne saisissent pas bien quel est leur rôle, c'est parce qu'il n'y a que d'en haut qu'on jouit d'une vue d'ensemble. Ce n'est pas totalement faux. Il arrive souvent que certains éléments du contexte général soient invisibles aux travailleurs d'en bas ou leur soient cachés, a fortiori quand l'entreprise est impliquée dans des activités illégales. Néanmoins, et mon expérience me l'a prouvé, n'importe quel subalterne qui reste dans la même équipe de travail pendant un minimum de temps, disons un an ou deux, finira immanquablement par être mis au parfum des petits secrets de la boîte par ses collègues. On m'a raconté que, au sein de Countrywide Financial, l'un des principaux protagonistes du scandale des subprimes en 2008, on trouvait deux grandes catégories d'employés, les nerds de base et les initiés. Et seuls ces derniers avaient été mis au courant des magouilles. J'ai eu connaissance au cours de mes recherches d'un cas encore plus extrême. Une femme m'a écrit qu'elle avait travaillé pendant près d'une année entière à vendre des espaces publicitaires pour un magazine de compagnies aériennes qui n'existait pas, comme elle a fini par le découvrir. Le fait de ne jamais voir d'exemplaires traîner dans les bureaux, pas plus qu'à bord des avions, qu'elle fréquentait pourtant régulièrement, lui avait mis la puce à l'oreille. Jusqu'au jour où ses collègues lui ont discrètement confirmé que toute l'opération était une grosse arnaque. Il va de soi que l'on rencontre des exceptions. Parfois, les responsables décomposent les tâches à dessein pour empêcher les travailleurs de comprendre comment leurs propres efforts s'inscrivent dans un tout. C'est fréquent dans les banques. J'ai même entendu parler d'usines aux États-Unis où bien des ouvriers qui trimaient sur les chaînes d'assemblage ignoraient ce qu'ils fabriquaient au juste. Il est vrai que la plupart du temps, c'était parce que la direction avait intentionnellement embauché des gens qui ne parlaient pas anglais. Ils n'en étaient pas moins convaincus que leur boulot était utile. Simplement, ils ne savaient pas en quoi. D'une manière générale, on peut supposer que les employés sont au courant de ce qui se passe au bureau ou dans l'atelier et qu'ils comprennent dans quelle mesure leur travail contribue ou non à l'entreprise, en tout cas, mieux que quiconque. Aux échelons supérieurs, c'est loin d'être aussi évident. D'ailleurs, j'ai constaté au cours de mes recherches que beaucoup de subordonnés se demandent « Est-ce que mon boss sait que je passe 80% de mon temps à poster des mèmes de chats ? Est-ce qu'il fait juste semblant de ne pas voir ? Ou est-ce qu'il n'en a vraiment aucune idée ?» Et cela ne fait que s'aggraver à mesure que l'on monte dans la hiérarchie, puisque plus vous êtes haut placé dans la chaîne de commandement, plus les gens ont de raison de vous cacher des choses. Là où ça devient vraiment compliqué, c'est quand il s'agit de déterminer si certains types de boulot, par exemple le télémarketing, les études de marché ou le conseil, sont des jobs à la con, c'est-à-dire s'ils produisent ou non une quelconque forme de valeur sociale positive. Pour moi, il convient de s'en remettre au jugement de ceux qui les occupent. Après tout, la valeur sociale étant essentiellement définie par ce que les gens y mettent, qui est mieux placé pour avoir une opinion sur la question ? En l'occurrence, j'estime que si, dans une profession donnée, une majorité de personnes pensent, en leur fort intérieur, que leur boulot n'a aucune valeur sociale, on doit faire l'hypothèse qu'elles ont raison. Une fois de plus, les tatillons vont sans doute protester. Comment déterminer cette proportion de manière un tant soit peu fiable ? De fait, c'est impossible. Même en admettant que l'on puisse sonder, par exemple, les lobbyistes ou les consultants financiers, on n'aura aucun moyen de savoir combien d'entre eux ont répondu avec honnêteté. Quand j'évoquais les industries inutiles dans mon article de 2013, c'était en présumant que les lobbyistes et les consultants financiers eux-mêmes étaient parfaitement lucides, que beaucoup d'entre eux, voire la plupart, étaient hantés par la conviction que le monde ne perdrait rien d'estimable si leur job disparaissait purement et simplement. Il est possible que je me trompe. Peut-être qu'ils adhèrent tous sincèrement à une théorie de la valeur sociale, selon laquelle leur travail constitue un élément essentiel à la santé et à la prospérité de la nation. Peut-être qu'ils s'endorment chaque soir avec la réconfortante certitude que leur job est une bénédiction pour ceux qui les entourent. Je n'en sais rien. Mais je parie que cela se vérifie encore plus lorsqu'on remonte la chaîne alimentaire. Comme on l'a vu, plus les puissants nuisent au monde, plus ils sont susceptibles d'être flanqués de béni-oui-oui et de propagandistes qui leur inventent des raisons de penser qu'au contraire, ils lui sont bénéfiques. Et plus une fraction d'entre eux, au moins, a de chances de se laisser convaincre. Assurément, les lobbyistes d'entreprise et les consultants financiers sont responsables d'une part disproportionnée des nuisances infligées au monde, en tout cas celles liées à l'exercice d'une activité professionnelle. Peut-être qu'ils doivent vraiment se forcer pour croire à ce qu'ils font. Si c'est le cas, alors les jobs de la finance et du lobbying ne sont pas du tout des jobs à la con. Ils seraient plutôt arrangés dans la catégorie des tueurs à gages. Dans l'article de Strike, je notais que je n'avais jamais rencontré un seul avocat d'affaires qui n'estime pas avoir un job à la con. Évidemment, cela en dit surtout long sur le genre d'avocat d'affaires qu'une personne comme moi est amenée à connaître. Le genre qui a d'abord eu une carrière de poète et de musicien, et, plus important, le genre pas particulièrement haut placé. J'ai le sentiment que les avocats d'affaires vraiment puissants pensent jouer un rôle parfaitement légitime. Ou peut-être est-ce tout simplement qu'ils se soucient comme d'une guigne de savoir s'ils font du bien ou du mal. C'est ce qu'on observe tout en haut de la chaîne alimentaire. En avril 2013, une étrange coïncidence a voulu que j'assiste à une conférence intitulée « Corriger le système bancaire pour de bon » dans les locaux de la Réserve fédérale de Philadelphie. Ce jour-là, Jeffrey Sachs, l'économiste de l'Université Columbia, bien connu pour avoir conçu la thérapie de choc appliquée à l'ex-URSS, s'exprimait en live vidéo. Et il a surpris tout le monde, en livrant sur les responsables des institutions financières américaines un jugement d'une franchise exceptionnelle, comme pourrait dire un journaliste prudent. Son témoignage est infiniment précieux, dans la mesure où, il n'a cessé de le rappeler, ces personnes s'étaient confiées à lui en toute candeur, persuadées qu'il était dans leur camp. Non sans raison. Écoutez, la plupart de ces gens, je les croise tous les jours dans les couloirs de Wall Street. Je les connais bien. Je déjeune avec eux. Et je vais dire les choses carrément. Pour moi, on est face à un environnement moral pathologique. Ces gens ne se croient pas tenus de payer des impôts. Ils ne se sentent aucune responsabilité envers leurs clients ni envers leurs homologues dans une transaction. Ils sont durs, cupides, agressifs. Ils ne s'estiment contraints par aucune loi, au sens littéral du terme. et ils ont massivement truqué le système en dictant les règles du jeu. Ils pensent sincèrement être investis du droit divin de prendre autant d'argent que possible, de quelque manière que ce soit, légale ou non. Si vous jetez un coup d'œil aux contributions de campagne, il se trouve que c'est ce que j'ai fait hier pour d'autres raisons, vous verrez que les marchés financiers sont aujourd'hui les premiers donateurs des deux grands partis américains. Notre système politique est corrompu jusqu'à la moelle, et les deux partis trempent là-dedans jusqu'au cou. Le résultat, c'est ce sentiment d'impunité stupéfiant qu'on retrouve désormais au niveau individuel. C'est extrêmement malsain. Ça fait 5 maintenant, que j'attends de voir quelqu'un à Wall Street se mettre à parler de morale. Je n'en ai pas encore trouvé un seul. On ne saurait être plus clair. Si Sachs a raison, et entre nous, qui connaît mieux cette réalité que lui ? Alors le problème n'est pas que les postes de commande du système financier soient des jobs à la con. Ce n'est pas non plus que ces gens aient fini par croire les balivernes de leurs propres propagandistes. Non. C'est juste qu'on est en présence d'une bande d'escrocs.